Alors, pour donner quelques mots d'explication sur le thème de ce second colloque, je dois vous dire qu'il provient d'une discussion avec mon collègue et ami François Massé, ici présent, que vous avez reconnu, à l'issue d'une conférence qu'il avait faite à la Maison de la Culture du Japon, à Paris, le 24 novembre 2012, et qu'il a réélaboré à la maison de... ou l'inverse, ce qui revient au même dans ce monde phénoménal. Et donc, le titre était « Le Kojiki Nedein », longtemps oublié, enfin, à un moment, et en tout cas, c'est le titre sous lequel il est paru dans la revue Ebisu, ainsi que je vous le mets ici. Cette conférence qui avait été commentée ensuite par notre ami et collègue, cette fois et pas collègue et ami, Philippe Brunet, elle se proposait d'esquisser quelques parallèles entre les deux grands textes classiques, l'Énéide et le Kojiki, en se plaçant sous la devise aussi provocante qu'inspirante de Marcel d'Étienne, comparer l'incomparable. Nous nous étions promis de poursuivre cette idée en l'étendant à d'autres domaines culturels. L'ivresse de l'altitude aidant, nous en étions venus à de si vastes projets qu'ils eussent été difficilement réalisables de notre vivant. Et nous avons donc, au fil des mois, décidé de le lancer à une échelle plus humaine, convaincus que nous étions qu'il ne manquerait pas de susciter l'intérêt, voire l'émulation nécessaire pour le poursuivre et le développer. Il faut donc remercier très chaleureusement tous ceux qui ont accepté de se lancer dans cette aventure et de venir exposer aujourd'hui ce que nous leur avions soumis dans notre texte d'orientation. Nous avions eu pour point de départ de ne pas entendre par texte fondateur simplement les écritures sacrées de telle ou telle religion, mais des textes qui, bien qu'ils n'aient pas fait l'objet d'une dévotion ni d'une exégèse explicitement comparable à celle des Saintes Écritures, n'en ont pas moins créé des traditions qui présentent avec les textes religieux des parallèles très évocateurs. Car par-delà le caractère religieux, c'est la relation langagière elle-même qui est en acte dans le texte fondateur. Et il n'est d'ailleurs que normal que l'une des communications porte sur cet aspect en quelque sorte pré-divin qu'est le verbe. Ce qui nous intéressera ici, dans la perspective hiéroglossique qui est la nôtre, c'est de montrer qu'un texte que nous qualifierons par commodité de purement littéraire puisse acquérir une sorte de sacralité, si l'on entend par là une inimitabilité qu'il faut distinguer de inimitabilité. Le inimitabilité existe dans le dictionnaire, mais pas imitabilité, ce qui est très aussi significatif. Donc, imitabilité qui peut se déployer sur deux modes, celui du respect, lorsque le texte fondateur est à l'origine d'écrits qui puiseront de son prestige et de sa supériorité consubstantielle, ou celui de la dérision, non pas forcément du texte lui-même, comme le fait Rabelais avec le texte biblique, mais de la dérision enseignée par le texte fondateur, comme le feront les successeurs de Rabelais et du Quichotte. C'est pourquoi le parallèle esquissé par François Massé entre le Kojiki et l'Énéide est particulièrement inspirant. Aussi différents, aussi incomparables entre eux que sur les deux textes, nous pouvons cependant les aborder dans un même esprit, parce qu'ils ont eu l'un comme l'autre un destin philologique et littéraire. Le Kojiki, effacé de la tradition classique japonaise après sa rédaction en 712, ne fut remis en valeur que 1000 ans plus tard avec le grand commentaire de Motoori Norinaga, mort en 1801. Tout cela, évidemment, je répète ce que écrit François dans son article, qui rendait à nouveau lisible. Il y a des choses que j'ai peut-être mal comprises, alors tu me diras. Si. Qui rendait à nouveau lisible un texte originel occulté, crypté en une écriture absconce qui nécessitait un véritable travail de déchiffrement, dont nous ne savons pas pour l'instant dans quelle mesure il correspond à la vérité première. Ce texte, le Kojiki, fut conçu dès le départ, comme le rappelle François Massé, page 128, dans un contexte politique et religieux précis, comme un texte littéraire. Mais après sa redécouverte, avec l'élaboration d'un Shinto d'État à l'époque de Meiji, on le voit agrégé à d'autres ouvrages anciens pour former une sorte de Bible Shinto, Shinten, c'était pas répété, en fait, destinée à être mise aux côtés de la Bible chrétienne et du Sutra du Lotus, toutes ces écritures désormais saintes étant présentées même physiquement sur le modèle des Bibles occidentales. Le Kojiki n'a donc pas donné naissance à un style littéraire. Il n'a pas été imité avant l'époque moderne, mais il a été sacralisé. Le fait qu'il était aussi le plus ancien répertoire mythologique japonais n'a pu qu'orienter son destin moderne vers la religion nationale et nationaliste d'un côté, vers la mythologie comparée de l'autre. Sa longue période d'occultation l'a empêché d'avoir la destinée extraordinaire de l'Énéide, et je vous renvoie aux lignes de François Massé d'histoire alternative où il imagine ce que ça aurait pu être, à propos de laquelle il faut dire quelques mots, l'Énéide, donc, tant elle offre de perspective à une réflexion sur les textes fondateurs. Je ne parlerai pourtant pas ici de l'un de ses aspects les plus importants, pour illustrer l'évolution qui mène un texte littéraire au niveau d'un texte religieux, en lui conférant une sacralité sur laquelle, bien sûr, il conviendrait de s'entendre. Je veux parler de l'usage de l'Énéide comme texte de divination, des Sortes Virgilianae, dont Rabelais, encore lui, il sera l'une des idoles tutélaires de notre colloque, nous donne un illustre exemple. Comme j'espère consacrer un jour un colloque entier à ce thème, donc texte littéraire et divination, nous le laisserons pour l'instant. Mais l'Énéide fut aussi dans toute l'Europe le modèle de l'épopée de fondation. Nous passerons charitablement sous silence l'une des dernières, peut-être avoir gardé quelques renommées, la Henriade de Voltaire, dont je vous donne la première strophe, non par mépris, mais parce qu'elle ne présente pas les mêmes complexités que j'appellerais volontiers effet de retour que d'autres plus anciennes et autrement plus prestigieuses. Et singulièrement, que celle qui peut être vraiment mise en parallèle avec son illustre modèle, si l'on considère le prestige qu'elle a acquis dans le pays où elle vit le jour. Prestige incommensurable, avec par exemple la Jérusalem libérata, la Jérusalem libérée du Tasse, 1575, publiée en 1581. Je voudrais en effet parler des Lusiades de Camoens, donc rédigé en 1500, fini en tout cas en 1556 et publié en 1572. Et on notera la synchronie avec le Tasse qui commence à Jérusalem en 1575. Non parce qu'il s'agit sans doute de la seule épopée directement inspirée de Virgile qui eut une fortune comparable, de très loin certes, bien sûr, dans son ère linguistique. Et il faut dire que le Tasse n'avait aucune chance face à Dante, car je n'aurai que peu de choses à en dire en raison de mon ignorance. En revanche, il s'agit d'un exemple très riche par l'illustration qu'il nous donne des relations linguistiques, de la relation hiéroglossique, pour tout dire, excusez mon obsession, qui préside à cette entreprise d'inspiration virgilienne et donc latine. Le prestige des Lusiades fut en effet si immense que plusieurs lettrés portugais ont estimé nécessaire de les traduire en latin. Faut-il dire « traduire » ou « retraduire » ? Si nous comparons entre elles les différentes versions que j'ai pu retrouver, nous découvrons, des versions latines, nous découvrons qu'il s'agit d'une entreprise de traduction fort différente des versions en d'autres langues, par exemple dans les idiomes contemporains d'Europe. On a l'impression que les traducteurs latins font l'inverse de ce que l'on attend d'eux. Ils ne traduisent pas, mais ramènent à l'original. Conscient de ce que doit Camoens à Virgile et à l'Énéide, il s'efforce d'effacer la transformation linguistique qui s'est opérée dans la création littéraire portugaise. Les Lusiades retournent à l'Énéide et apparaissent d'autant plus comme ce qu'elles sont dans l'intention de leur auteur, c'est-à-dire une transposition d'une même matière dans une langue différente. À parcourir même très rapidement les hexamètres de ces traductions, bon, je ne vais pas dire que tout le monde comprend, mais enfin, bon, c'est pas si lointain que cela. Et puis le latin va vous aider tout de suite. À parcourir les hexamètres de ces traductions, on est pris d'admiration pour la connaissance intime que les traducteurs révèlent de l'œuvre du Mantouan. Et l'on se prend rapidement au jeu. Car la réduction ad Virgilium, si vous me permettez, ne se manifeste pas seulement dans la traduction des propositions. Les traducteurs ne perdent pas une occasion d'insérer des termes virgiliens, des bribes de vers, là où ils le peuvent, ce qui leur permet de maintenir tout au long du texte le phrasé, la diction du poète suprême. Ce serait une entreprise passionnante que d'analyser minutieusement ce travail de marqueterie. Un beau sujet de thèse. Mais nous nous contenterons de regarder ici la première stance, telle qu'elle est rendue par quatre traducteurs différents. Alors vous voyez, les armes et les héros, les barons, n'est-ce pas, illustrent qui de la rive occidentale du Portugal, par des mers jamais autrefois naviguées, etc., sont allés au-delà de Taprobane, etc. Vous remarquez tout de suite quelque chose, je vais y revenir. Nous ne tiendrons pas compte de la dernière traduction latine des Lusiades qui apparut en 1983. Nous voyons très rapidement, dès les premiers mots, comment se déroulera cette interaction langagière. La première stance en portugais est à la fois familière et surprenante, car il lui manque, de notre point de vue, quelque chose. À nous qui répétons depuis l'enfance, arma virumque cano. Nous retrouverons bien les armas, mais il manque le verbe, nous n'avons pas cano. Et alors que nous attendions un héros, après tout il s'agit de Vasco de Gama, ce sont des baroès au pluriel, barons, qui survient. Martin me corrigera ma prononciation portugaise. Le décalage conscient opéré par l'auteur est évident. En rompant avec la construction virgilienne, il se démarque de son modèle de façon presque choquante. Si nous regardons cette première stance telle qu'elle est traduite par nos quatre latinistes, nous voyons que tous ont tenu à restituer la construction virgilienne. Un traducteur moderne, travaillant dans les langues modernes et avec la conscience du travail de traducteur, aurait sans doute privilégié la fidélité à l'indépendance littéraire de Camoens, puisque c'est vraiment une sorte de déclaration d'indépendance à l'égard du texte virgilien. Mais nos pieux latinistes tiennent à la restitutio, comme nous allons le voir immédiatement. La première traduction dont nous disposions est celle de Thomas de Faria, datée de 1622. Nous voyons qu'il remet en latin presque tel quel le début de Virgile. « Arma virusque cano ». Donc, « arma virumque cano », vous voyez qu'il est tel quel. Comme trois des quatre autres traducteurs, d'ailleurs. Dans ces quelques vers, nous n'en finirions pas de relever les résonances virgiliennes du vocabulaire et des constructions, entièrement gratuites si nous nous référons à l'original. Nous pouvons cependant résister au plaisir de relever la subtile résonance des vers, les quatrièmes vers avant la fin, « alquate alta queta probana et tigerunt litoraterae », etc., où l'on retrouve les « altae moenia romae », n'est-ce pas, les remparts de la haute Rome, mais repris cette fois sous une forme, avec une locution plus logique, c'est-à-dire que le « alta » s'accorde avec « littora », n'est-ce pas, il rompt la construction virgilienne, où vous savez bien que les « altae romae », en réalité « altae », qui est au génitif, doit s'entendre par le sens avec « menia », les remparts. Et donc, c'est une construction plus logique. Et vous voyez que le menia, les remparts, apparaissent dans le vers suivant, sous la forme menibus et urbes, bien sûr, au pluriel, qui correspond à Romae dans le texte virgilien. Rien de cela ne figure dans l'original portugais. Et l'on remarquera aussi que le dernier vers du poème virgilien, n'est-ce pas, dans ce passage, « Inferet quae deos latio », aîné donc qui apporte les dieux ancestraux au latium, est christianisé ici dans la forme « Inclita Christi vexilla tulerunt », ils apportèrent les illustres armes du Christ. Donc, presque immédiatement après la traduction de Faria, publiée en 1602, et remarquons la latinisation aussi, vous voyez que Faria, 1602, la deuxième ligne, Ulissipone, c'est la latinisation du mot Lisbonne, n'est-ce pas ? Et vous voyez comment on met en parallèle Ulysse et Lisbonne dans un jeu de mots qui a été pendant toute la... ça nous ramène à un autre texte fondateur. Donc nous trouvons une autre traduction qui restait cachée sous forme manuscrite dans une bibliothèque jusqu'à ce qu'elle soit publiée en fac-similé au siècle passé, en 1972 seulement. Et ici, je remercie vraiment Martin Nogueira Ramos et son père qui ont trouvé miraculeusement ce texte. Ça fait presque une petite histoire à écrire en latin sur la redécouverte du texte qu'ils ont bien voulu m'offrir. Et moins prolixe que la précédente, et je n'ai pas pu tout déchiffrer, je vous donne, puisque c'est le manuscrit qui est dans fac-similé. Nous trouvons chez lui aussi les mêmes discrets procédés de résonance. Le multa et bello discrimina passus, par exemple, qui est ici au troisième vers avant la fin, rappelle bien sûr le multa quoque et bello passus de Virgile, et ce n'est pas dans le texte de portugais. Si la troisième traduction, celle de Franciscus Macedus, rompt la série, parce que vous voyez que. Oui, je savais bien que j'avais oublié quelque chose, mais enfin, c'est pas grave, je vais la sauter. On retrouve dans cette troisième traduction, qui date aussi du XVIIe siècle, mais était publiée en 1880, les mots viros, menia, carinae, littora, etc. Tout est en résonance avec Virgile. Bon, je saute un peu parce que le temps passe. Ces exemples, qui pourraient être multipliés à l'infini, montrent l'aspect tout à fait singulier de la traduction des grands textes de la Renaissance écrits dans les langues vulgaires, vernaculaires, que l'on commençait d'appeler nationales, en langue latine. Il faudrait certainement discuter de l'intention profonde qui présidait à tel projet. Les épopées en langue moderne provenaient du désir d'établir une nouvelle tradition langagière qui put être mise au service, au rang du latin. Il s'agissait, plutôt que de l'émancipation d'un ordre ancien, de la fondation d'une littérature nouvelle qui bénéficiait de la lumière de la langue latine. Il s'agissait d'une innovation radicale, bien que fondée sur une langue antérieure prestigieuse. Innovation qui consistait à transposer dans une autre langue la richesse littéraire de la langue classique. Que peut alors signifier cette entreprise gigantesque, indéfiniment reprise au cours des siècles, de retraduction en latin d'un texte dont la nature même est de ne pas être écrit en cette langue? Les exemples cités plus haut montrent, pensons-nous, que la traduction, en ce cas, n'est pas du tout la même entreprise intellectuelle que les traductions dans les autres langues modernes. Il s'agit d'une restitutio, d'une redintegratio, visant à montrer la nature profonde du texte vernaculaire en ce qu'elle plonge ses racines dans un texte antérieur. Les Lusiades ne sont un texte fondateur que dans la mesure où elles sont fondées sur un texte fondateur précédent, l'Énéide, elle-même démarquage de l'Iliade et de l'Odyssée. Chose paradoxale, son statut de texte fondateur est confirmé régulièrement, de siècle en siècle, et jusqu'en 1183, par sa redintegratio latine, assurée par les traducteurs successifs. Derrière les Lusiades, donc, nous voyons l'Énéide. Ce n'est pas une découverte, tout le monde le sait depuis toujours. Mais ne pourrions-nous aller plus loin et soutenir que la notion même de l'Énéide comme texte fondateur est si profondément ancrée dans les esprits européens qu'elle apparaît comme un fantôme dans des endroits beaucoup moins évidents que ceux qui viennent d'être évoqués? Je voudrais en montrer un exemple qui n'est pas du tout isolé, mais se présente comme un courant exégétique relativement cohérent et répandu, dont les théories font l'objet de débats assez vifs et approfondis. N'étant pas plus spécialiste de l'exégèse néo-testamentaire que des Lusiades, je vais donc m'aventurer une fois de plus dans un domaine qui m'est étranger, mais qui est si exemplaire, même pour le profane, de ce qui nous réunit aujourd'hui, qu'il me faut l'aborder. Ce débat historico-exégétique tire son origine d'une expérience de lecture qu'auront connue tous ceux qui se sont plongés dans la lecture des Actes des Apôtres et sont arrivés au chapitre 21. Ce chapitre commence par une rupture narrative qui surprend le lecteur. Alors que le récit était écrit jusque-là à la troisième personne, il passe tout à coup à la première. Et alors, il arriva ainsi, et comme il était arrivé que nous naviguâmes, etc., séparés de ceci, directement jusqu'à Co, et ensuite, le jour suivant, à Rhodes et Patara, et nous ayant trouvé un navire qui partait vers la Vénitie, nous y montâmes, comme diraient les Dupont et Dupont. Ce changement de personne coïncide avec l'embarquement des apôtres sur un navire. Il va sans dire que tout lecteur latiniste se retrouve peu ou prou à ce moment dans une ambiance qui ne peut que lui rappeler l'Énéide. Et l'aspect de roman d'aventure que présentent plus d'une fois les Actes, dont on ne peut que reconnaître l'intérêt narratif, ne peut aussi que le rapprocher de l'Énéide. Les spécialistes du Nouveau Testament sont à l'origine des lecteurs comme les autres. Ils présentent cependant cet avantage que leurs expériences de lecture ont souvent tendance à devenir des théories élaborées. Disons simplement qu'un certain nombre de spécialistes ont cru trouver dans le petit corpus interne au Nouveau Testament, constitué par Luc, l'évangile de Luc et les Actes, en y ajoutant parfois l'Épître aux Hébreux, une nette influence de l'Énéide, influence qu'ils entendent démontrer en établissant des parallèles détaillés. Ces parallèles détaillés n'ont que l'apparence de la démonstration. Pour un lecteur naïf et sans préjugés, ils ont exactement la même valeur démonstrative que ceux établis par François Massé en jeu littéraire, entre le Kojiki et l'Énéide. C'est-à-dire qu'ils révèlent des structures narratives communes. Mais pour tout dire, elles semblent beaucoup moins concluantes que celles que notre collègue et ami a établies. L'un des livres majeurs écrit sur la question, est celui de Madame Marianne Palmer Brons. Oui, excusez-moi, je n'ai pas. Donc, Madame. Je vous donne en mauvais français ce qu'elle écrit en très bon anglais. Se pourrait-il que Luc et les Actes aient été composés comme une épopée de fondation, foundational epic, pour les communautés chrétiennes qui venaient d'émerger dans le monde gréco-romain, et était écrit pour conférer, pour transposer le, l'héritage religieux d'Israël définitivement et exclusivement vers l'Église. Tel est le résumé de ce que soutient Mme Palmer-Bruns. Bien qu'elle parte de l'héritage homérique, c'est l'Énéide qui semble être à ses yeux l'ouvrage épique auquel se réfère l'auteur de Luc et des Actes. D'autres chercheurs sont tout aussi, et voire plus catégoriques, tels Mark Reasoner, dont l'un des articles annonce assez clairement la thèse « Divine Sons, les enfants divins, les enfants de Dieu, Aîné et Virgile dans l'Épître aux Hébreux ». Bon, là aussi, je vous donne aussi une autre citation. Bien que certains tempèrent quelque peu la hardiesse de ces rapprochements, je vous donne ici la citation d'Alan Bale, qui tout en niant l'influence générale, dit quand même que la dernière ligne, vous voyez, qu'il y a quelque chose de ces, qu'il y a quelque chose des actes qui doivent se lire à la lumière de l'épopée. Donc, ils reconnaissent l'influence de l'épopée virgilienne sur les actes. Pour le même lecteur naïf et sans préjugés, la remarque faite à propos de la thèse de Mme Palmer-Bruns par George Young est irréfutable. Nous n'avons absolument aucune preuve. J'ai écrit en gras, n'est-ce pas ? Il n'y a pas la moindre allusion à Virgile dans, directe et claire dans ce petit corpus. Mais ce que ce débat qui continue de faire rage apporte à notre propos, c'est la découverte d'un élément important. Un texte aussi fondateur que l'Énéide, qui mérite certainement entre tous cette épithète pour ce qui est de l'Europe latine, car il l'a accompagnée de façon plus constante et profonde que les poèmes d'Homère, dont il est pourtant directement issu, est perçu par certains modernes, et là c'est vraiment la mentalité de nos exégètes qu'il faut examiner, comme si fondamentale que l'on s'en sert pour fonder, sous le couvert d'une démarche philologique qui se veut, sans nul doute ni soupçon, rigoureusement honnête et justifiée, un texte aussi fondamentalement fondateur, quel est le texte sacré de l'Europe chrétienne, le Nouveau Testament. Les modernes semblent estimer que refonder le Nouveau Testament sur l'Énéide en révélerait un aspect plus profond, plus fondamental. Les actes se voient en quelque sorte mis au rang des, les actes des apôtres se voient en quelque sorte mis au rang des Lusiades, comme l'évangile de Luc ou l'épître aux Hébreux. L'on comprendra ainsi pourquoi nous avons tenu à distinguer dans ce colloque entre texte sacré et texte fondateur. D'autant plus, et alors là je suis désolé, il faudrait presque demander que l'on coupe, que l'on coupe cela de l'enregistrement public qui sera sans doute diffusé dans le monde entier, voire au-delà. J'entre dans un épisode un peu scabreux, mais que je ne peux m'empêcher de mentionner. D'autant plus donc que par un paradoxe surprenant, il faudrait admettre que l'influence de l'épopée latine se soit fait sentir par-delà le latin dans le monde hellénistique, puisque Luc et les actes sont écrits en grec, n'est-ce pas ? Cela en dit long sur la profonde foi en l'Énéide et son message universel qu'ont les spécialistes contemporains qui se sont lancés dans cette audacieuse entreprise comparative. Cela nous ramène à la question de la langue, à une autre péripétie et à une autre péripétie éminemment actuelle qui montre l'attitude particulière que maintiennent les modernes à l'égard de la langue fondatrice portée par l'Énéide ou qui portait l'Énéide, c'est-à-dire le latin. Et nous allons voir qu'un seul mot en latin peut être fondateur du moment qu'il est proféré dans cette hiéroglosse, cette langue sacrée qu'est le latin. Il sera nécessaire de commencer par quelques mots d'excuse. Il n'est nullement dans mes intentions de choquer, encore moins de blasphémer, en insérant cet épisode de hiéroglossie active et paradoxale. Je ne peux m'empêcher d'y faire allusion ici, parce qu'il s'agit en quelque sorte d'un message venant de l'Antiquité dont les conséquences éclatent sous nos yeux. Il est résumé dans un site qui s'est créé tout récemment et qui s'intitule « The Great Futuciones Debate », le grand débat sur les Fututio, ce qui donne une assez bonne idée du contenu. On y donne un clair résumé de la question qui tourne entièrement autour d'un seul mot et de sa traduction appropriée, si l'on peut dire. Tout commence dans le numéro du 22 avril dernier du Times Literary Supplement, du supplément littéraire du Times, où se trouve critiqué assez sévèrement, vous voyez dans, en quels termes, la traduction d'un poème de Catulle dont l'original latin Alors, vous voyez, la traduction, ce sont les quatre derniers vers, n'est-ce pas ? « Let no one bolt the door », que personne ne verrouille la porte et ne soit tenté de partir, et ne soit pas tenté de partir, mais reste à la maison et tiens-toi prête pour neuf sacrifices à Vénus, comme dirait l'autre. Donc, la création d'un poêle de calcul, dont l'original latin, que vous avez ici, et dont le mot crucial est au vers 8, n'est-ce pas ? Donc, à ce que je voudrais, ma douce Ipsitilla, alors là, ma chère, ma délice, mon cher, que tu m'invites chez toi pour ta sieste, et si tu le fais, aide-moi. Favorise ma venue en ce que personne ne verrouille ta porte et que ne devienne pas l'idée d'aller dehors, n'est-ce pas, d'aller te promener. Mais reste chez nous, reste à la maison et prépare-nous. Donc, novem continuas fututiones. Et verum sicud agest satim. Mais si tu dois faire quelque chose, préviens-moi tout de suite. Et oui, je ne peux pas traduire les deux derniers vers, mais ils sont graphiques, comme on dirait. Voilà, on a critiqué la traduction anglaise, qui est quand même assez graphique, elle aussi, n'est-ce pas ? Alors, ne nous étendons pas trop sur le sujet, si j'ose dire. Bien que le latin, en ces mots, brave l'honnêteté, il n'en est pas de même du vernaculaire. Convaincu de la argumentation un peu péremptoire de Madame Morales, c'est, je ne l'ai pas fait exprès, c'est la dame qui travaille là-dessus, Hélène Morales, quantité de lecteurs, vous voyez, elle pense que d'un mot, ce mot fututio est un mot inventé par Catulle et qui apparaît dans la littérature latine seulement chez Catulle et Martial un siècle plus tard. Catulle est mort en 54 avant Jésus-Christ, Martial c'est le milieu du premier siècle après, n'est-ce pas ? Et donc, elle pense que ce mot a été inventé et qu'il faut donc le traduire de façon inventive, justement. Donc, convaincu de l'argumentation donc un peu péremptoire de Madame Morales, quantité de lecteurs latinistes du TLS, certains invoquant d'ailleurs des précédents qui montrent que Madame Morales n'était pas la seule à juger ainsi du terme, ont rivalisé de créativité priapique pour rendre la façon la plus contorsionnée l'objet du débat. Donnons pêle-mêle quelques suggestions qui se trouvent sur le site. La liste n'est pas close, et il est hors de doute que la créativité des latinistes amateurs et chevronnés s'y déploiera encore. Nous avons donc ici un excellent exemple d'une mini-série sur un mini-texte fondateur, une tradition qui surgit sous nos yeux à partir d'un poème fait il y a au moins 2070 ans. Mais qu'en est-il de l'affirmation de Madame Morales, que personne ne semble discuter, selon laquelle fututio serait un mot, c'est une prononciation franco-germanique du latin, serait un mot créé par Catulle et repris un siècle plus tard par Martial. Il s'agirait d'un terme original, dont la formation même impliquerait l'excès, ce qui justifierait les traductions gargantuesques de nos latinistes modernes. Le fait même que le mot eût été repris par Martial dans un contexte forcément voisin, mais visiblement plus sage, puisque vous voyez que là, c'est au deuxième vers. Tibi, beatam noctem neuia sobriasque mauis carta inequitias putunis. Donc, les déistes, les sobres coquineries, n'est-ce pas ? Sobria inequitiae, d'une cartae futunis. Donc, le mot est cru, mais il n'implique rien d'autre que ce qu'il doit impliquer. Le simple fait donc, de ce mot repris par Martial devrait modérer cette affirmation. Et de toute façon, nous n'avons que fort peu d'idées sur ce qu'était le latin parlé de l'époque. Une chose cependant apparaît certaine. La formation de fututio, du verbe futuo, excusez-moi, est parfaitement régulière. Et est à futuo, futuere, ce que, par exemple, statutio est à statuo, statuere, ou bien, pour un mot plus connu, institutio, institution, à instituo. C'est, on ne voit pas où est la démesure dans ce terme, sinon, comme on dit en anglais, in the eye of the beholder. C'est un mot parfaitement régulier. Et l'édition révisée du dictionnaire étymologique de la langue latine, qui n'est pas faite par des rigolos, vous le savez, donne le terme sans commentaire comme dérivé normalement du verbe futuo. Le statut d'expression du délire priapique que lui confèrent certains latinistes modernes est donc une création contemporaine, une sorte de paradoxe temporel où l'on recréerait la langue fondatrice pour émettre ou réémettre à partir d'elle une tradition vernaculaire. Il est plaisant de constater la vigueur de la relation hiéroglossique ici esquissée. L'on se fonde sur un terme inexistant, du moins sur un trait inexistant de ce terme, qui serait sa prétendue originalité, pour justifier une création nouvelle qui ne trouve bien sûr sa légitimité qu'en relation avec ce terme imaginaire. Sinon, nous n'aurions pas aucune raison d'inventer de tels mots. Si je suis passé des textes aux mots, c'est que je voulais conclure sur un dernier exemple qui me semble tout aussi révélateur de la relation hiéroglossique complexe que l'on trouve entre les textes fondateurs sacrés et littéraires. Il nous permettra de remonter au père de tous les textes fondateurs de l'Europe, à Homère lui-même. Le prétexte en sera une très intéressante communication présentée à l'Académie des inscriptions et belles-lettres, illustre endroit, par messieurs Saffray et Segond sur un texte de Porphyre repris par Saint-Augustin, dans lequel les auteurs reprenaient l'adaptation faite en latin de plusieurs passages du philosophe disciple de Plotin, fin du IIIe siècle après Jésus-Christ. Un seul passage retiendra ici notre attention, qui traite d'une espèce de démon décrite en grec...
Trois minutes.
Non, je croyais que tu regardais. Qui traite d'une espèce de démon, n'est-ce pas, le genos de la seconde ligne, upekoon, donc, décrite en grec comme étant soumise à un autre, ce sont des fragments, hein, donc, je ne sais pas exactement de qui il s'agit, donc ces démons sont de nature trompeuse, omniforme, vous voyez, voilà, apatélès, deuxième et troisième ligne, n'est-ce pas, pantomorphone et polytropone. Donc, je traduis littéralement, de nature trompeuse, omniforme et aux nombreuses ruses, aux nombreux détours. Bien sûr, chacun, et même de nos jours, reconnaît dans le dernier adjectif, polytropone, reconnaît dans cet adjectif celui qui est accolé à Ulysse dès les premiers vers de l'Odyssée, l'andra polytropone, que narre au poète la muse. Tous peut-être, mais pas Saint-Augustin, qui, selon les auteurs de cette communication, en traduisant le passage en latin, c'est donc Saint-Augustin qui est en dessous, et vous voyez qu'il traduit le genus est omniforme, natura phalax, faux de nature, omniforme et multimode, si j'ose dire, multimédia. Donc, en traduisant le passage en traduisant polytropone par multimodum, n'aurait pas bien compris le grec. Voici la citation comme si le traducteur n'avait pas connu le premier vers de l'Odyssée, point d'exclamation, Saint-Augustin, quel ignare. L'on me permettra de rester sceptique devant ce jugement à l'emporte-pièce sur l'éducation littéraire de Saint-Augustin. Certes, nous savons tous, d'après les confessions, que Homère lui était amer. Mais il l'avait lu, sinon il aurait pu le détester. Et il devait connaître, tout comme un autre, la traduction de Livius Andronicus en latin, faite deux siècles avant Jésus-Christ. Virum inseque camena versutum, le virus versutus, l'homme rotor, qui lui aurait donné une traduction bien adaptée à son sujet. Mais s'agit-il vraiment d'une erreur? En réalité, et si nous revenons à l'Épître aux Hébreux, l'adverbe polytropos, donc la forme adverbiale, était utilisé dès la première phrase de cette épître en grec. Et elle était traduite dans la version de Saint Jérôme par donc, multifariam muldisque modis olim deus loquens matribus in prophetis, c'est-à-dire de façon diverse et en plusieurs modes, multis modis, Dieu nous avait autrefois parlé par les prophètes. C'est-à-dire que l'Épître aux Hébreux en grec reprend la première phrase de l'Épître aux Hébreux reprend le premier vers de l'Odyssée. Un exact contemporain d'Augustin, Saint Jérôme, n'est-ce pas, utilisait donc la locution multis modis pour rendre le grec polytropos, qu'Augustin, par ailleurs, rendait sous sa forme adjectivale par un adjectif formé des mêmes termes. Cela ne peut être l'effet du hasard. Je ne vais pas entrer ici dans les implications théologiques de l'emploi de ce même terme dans deux contextes différents. Implication aussi étrange en grec qu'en latin. L'emploi de l'adjectif grec par Porphyre semble pleinement justifié. Ces démons semblaient peu recommandables. Mais comment comprendre que ce même terme, si connoté en grec, put être repris par saint Paul en parlant de Dieu et de ses prophètes? Dans le même temps, si le lien était bien établi entre le grec polytropos et multis modis dans un contexte scripturaire à l'époque de Jérôme et d'Augustin, comment expliquer qu'à l'inverse, Augustin l'ait employé pour les démons? Est-ce à dire que la relation entre le terme grec et le latin établi par le premier vers de l'Odyssée était si étroitement établie que l'on ne pouvait que les utiliser de pair, quel que fût le contexte? Nous verrions donc, une fois encore ici, comment la puissance d'un texte fondateur peut agir même sur un texte sacré. Ce n'est bien sûr pas que je veuille opposer texte fondateur à texte sacré, mais ces exemples auront peut-être servi à montrer qu'il arrive souvent que l'on puisse les distinguer, parce qu'ils n'ont pas tout à fait la même fonction, et parce que lorsqu'il s'agit de cette relation entre les langues dans laquelle le facteur religieux est en principe si influent, on s'aperçoit qu'il y a plusieurs dimensions en cause, et que la sacralisation de la langue n'est pas forcément effectuée par l'écriture sainte. Ce sera l'une des tâches de notre colloque de cette année que d'examiner cette question, et je remercie très chaleureusement tous ceux qui ont accepté de se lancer dans l'aventure. Et je prie François de m'excuser.